J'espère que vous allez bien. Les fêtes approchent, nous sommes très heureux, ou presque, parce que Colline Robert est en colère.
Bonjour à vous. Habituellement, si vous faites des courses dans un supermarché, vos oreilles sont saturées de bruit, vous ne prêtez même plus attention à la radio qui tapisse l'atmosphère, bon, sauf Osmose Radio, bien sûr, qui tapisse l'atmosphère d'une couverture musicale de sonorité médiocre. Ce bloubi-boulga géant d'informations, de brouhaha mêlés de cancans et de chointements musicaux devient pour beaucoup une habitude, noyant les significations des mots « entendre » et « écouter » dans le même torrent cacophonique. Il y a ne serait-ce qu'un an ou même un mois, lorsque l'espoir avait encore un sens, personne n'aurait parié sur le fait qu'un grand violoniste, soliste et concertiste joue des pièces de Bach, la méditation de Thaïs composée par Jules Massenet et la mélodie à Orphée de Gluck dans un supermarché. Et pourtant, hier soir, mardi 15 décembre 2020, c'est bien ce qu'a fait Renaud Capuçon. Comme un saltimbanque, un joueur public d'autrefois ayant chaussé ses souliers de scène et son veston, le musicien a protesté. Mais en musique, simplement, en posant modestement son étui d'instrument devant une tête de gondole remplie de livres dans un supermarché de Chambéry en Savoie. Son entourage a filmé ce concert improvisé populaire et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux de Renaud Capuçon. L'artiste a légendé parce que la culture ne doit jamais s'arrêter, avec le mot dièse « sauver la culture ». Au petit opportunisme ou engagement, la démarche et l'action méritent d'être saluées. Hier, mardi 15 décembre 2020, les cinémas ont allumé leurs enseignes à 17h en signe de protestation et leur fédération nationale dépose aujourd'hui un recours référé liberté devant le Conseil d'État. Cette démarche, le référé liberté, permet de demander au juge de prendre en urgence toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Dénoncer l'injustice, c'est le sens de ces actions, car aujourd'hui en France et dans d'autres pays européens, on en est là. On peut se masser dans des ruelles de centre-ville pour faire des achats, mais on ne peut pas s'asseoir dans une salle de cinéma dans le même sens sans parler, avec un masque et en se déplaçant tranquillement sans se bousculer pour s'y installer. On peut emprunter des livres, les déposer dans nos bibliothèques, mais pas se rendre toujours masqué et en silence, puisque c'est l'usage, sans rien toucher, dans un musée, pour nourrir nos yeux, notre observation et notre imagination. Les acteurs culturels qui ont manifesté hier n'ont pas perdu leur grammaire, l'audace, l'envie de jouer, ne serait-ce qu'avec les mots, mais jusqu'à quand pourront-ils rester debout? L'une des phrases inscrites en pancarte, « On va mourir et même pas sur scène ». La culture porte actuellement une robe noire comme costume. Les vêtements pailletés, les plumes et les strass ne sont pas de sortie en cette période de fin d'année. L'ambiance n'est pas à la fête derrière la bonne parole virtuelle. Pourquoi trouve-t-on normal de prolonger de 3 semaines une réouverture des lieux culturels pour y éviter des rassemblements de personnes, alors qu'on autorise les grands déplacements, les regroupements en petits comités dans des lieux clos, privés, où l'on ne porte pas le masque? Ce qui aura inévitablement pour conséquence de repousser encore la réouverture, car la situation sanitaire ne se sera pas améliorée, à moins que le Père Noël place des vaccins sous le sapin et que ses lutins viennent nous aider à les utiliser. On trouve normal de se rassembler pour écouter des prières, mais pas pour se délecter des vers de Molière. On peut se faire péter le foie en achetant celui des oies, mais pas vivre d'explosions émotionnelles et intellectuelles. Ah si, de manière virtuelle, pardon. Voilà l'essentiel. Mais a-t-on seulement demandé aux Français ce qu'ils souhaitaient? Personne n'avait prévu la crise sanitaire, de fait, personne n'a lu un programme et voté pour que de telles mesures injustes soient prises. Parce que les acteurs culturels peuvent soi-disant compenser et trouver des méthodes d'adaptation en ligne, il faudrait que l'on se passe du réel. Les cinémas, les théâtres et les musées, qui ne reçoivent habituellement pas tous en France des milliers de personnes, sont des lieux vivants et responsables. Ils sont d'utilité publique et ce ne sont pas que des mots. Au niveau local, ils contribuent à maintenir un lien social. Ils accueillent et motivent des projets et en avoir, c'est conserver de l'espoir. Aller dans ces lieux, c'est aussi trouver un moyen d'évasion à portée de tous. C'est sortir du quotidien, prendre du recul. Aller dans ces lieux qui nous entourent, c'est voir d'autres paysages que celui visible par la fenêtre. Dans ces lieux, une fois les volets ouverts, on aperçoit le monde, à défaut de pouvoir se déplacer si on n'a pas les moyens d'aller dans une maison de campagne ou en vacances. La fermeture de ces lieux, c'est aussi l'interdiction de mener des projets scolaires, d'éveiller notre jeunesse et de la nourrir avec des ingrédients variés, locaux, que l'on trouve en circuit court. Garder ces lieux clos, alors que d'autres comparables par leur forme sont ouverts, c'est prendre le risque de perdre du personnel et de tuer des vocations dans un vivier de professionnels habituellement dans une situation précaire avec des CDD payés au SMIC, malgré les diplômes et compétences nécessaires pour que notre culture française et son patrimoine brillent de mille feux. Et je ne parle même pas des jeunes diplômés et de ceux qui vont arriver sur le marché de l'emploi en 2021. Je sais bien de quoi je parle. Il faut se battre contre cette injustice. Comment ? C'est la loi du plus fort, du plus nombreux, de la masse ou de ceux qui cassent, qui fonctionnent ? Ce n'est pas ainsi que les acteurs culturels entendent se défendre. Ils ne vont pas massacrer un Géricault même s'ils sont dans le même bateau. Alors il faut donner des arguments et dire les droits. On autorise le commerce, mais pas la culture ? Eh bien, c'est absurde. La culture coûte, manque d'argent, mais elle crée aussi des richesses. Lorsque l'on achète un ticket de musée ou une place de cinéma, on participe à l'économie du marché, on contribue en payant des taxes, etc. Si nous regardons du côté des principes, où est l'égalité dans cette situation ? Pourquoi certains seraient favorisés, plus chanceux dans ce malheur collectif ? On ne peut pas lutter contre le virus, mais contre l'injustice, oui. Les politiques pensent-ils vraiment que les gens ne comprendraient pas l'ouverture de ces lieux culturels sûrs et le prolongement de fermeture d'autres ? Mais que croient-ils ? Que on ne peut pas aimer tenir une pinte et voir un film ? Vous êtes choqués par ce que je dis ? Mais ce n'est que la conclusion que l'on peut tirer du message renvoyé par les décisions gouvernementales qui ne font que renforcer la méfiance, la jalousie des uns envers les autres. Alors que la cause du combat est plus noble. Elle n'oppose pas les acteurs et les citoyens entre eux. Elle leur propose de défendre une valeur et de combattre sa dérive. De quoi ont peur les politiques ? D'autoriser l'ouverture des lieux pour les intellos, les cultureux, les gens disciplinés et pas les bars qui seraient réservés aux autres, à une masse populaire ? Il faut arrêter cette hypocrisie, ces oppositions et ce classement social faux. S'il vous plaît, adressez-vous à ceux qui sont en train de tomber sur le bas-côté, à ceux qui ne comprennent plus pourquoi on peut s'entasser à 12 personnes dans un petit commerce de fruits et légumes en se frottant, en se touchant, en se bousculant, si ce n'est en se marchant dessus, alors qu'on ne peut pas s'asseoir dans une grande salle climatisée. Il faudrait d'ailleurs instaurer une espèce de sécurité citoyenne avec un code de circulation, de respect, de gestuelle, les bonnes manières et les gestes barrières. Que les lieux de culture ouvrent de nouveau, c'est montrer que l'on peut faire société sans baser uniquement nos échanges sur le commerce, dans un rapport financier où l'on repart avec quelque chose dans la main après avoir sorti la carte bleue. Le click and collect ne marche pas dans la culture. Les échanges ne peuvent pas être que de l'argent contre un objet ou un service matérialisé par quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre les fourches et chanter à tue-tête cette colère. Ce n'est pas en faisant la révolution que l'on va régler les choses. Mais s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles, écoutez ceux qui s'expriment, et s'il le faut, ils le feront plus fort pour être entendus derrière le masque afin d'enfiler le bon. S'il vous plaît, acceptez que les émotions, la réflexion se mêlent aux chiffres dans les prises de décision. Arrêtez de tout regarder en vision globale. Utilisez des loupes pour voir ce qu'il en est sur le terrain. Et imaginez un monde où l'on n'entendrait plus de musique parce qu'on nous aurait interdit de nous rassembler pour jouer à plusieurs. Un monde où l'on ne pourrait plus voir de peinture parce qu'on aurait verrouillé les portes des institutions qui les protègent. Un monde où l'on n'ouvrirait pas les rideaux et où l'on demanderait aux comédiens de rester dans l'ombre. Tout cela dans un temps ancien sans Internet. Peut-être que nous nous rendrions plus compte de la privation. On ressentirait peut-être plus le manque et on n'accepterait pas cela. Ne soyons pas illusionnés par le virtuel et les initiatives culturelles qui y sont exposées. Ce n'est pas le reflet de la réalité. Alors j'entends ceux qui ne vont pas comprendre, mais enfin ça va, ils vont arrêter de chouiner ou de gueuler les cultureux. Ils peuvent bien participer à l'effort collectif. Eh bien justement, c'est ce qu'ils font. Mais pourquoi donc cet effort ne serait demandé qu'aux uns, de plus en plus fragilisés et non aux autres ? À quoi servez-vous, pourrait-on dire ? Pourquoi cette question ? Faut-il toujours être essentiel pour exister ? Le monde est ainsi fait que si nous devions garder que l'essentiel, nous ne serions pas là. Alors j'en termine avec cette adresse et je sais, j'étais un peu longue, même si je doute qu'elle dépasse les frontières avignonnaises, cette adresse. Madame la ministre de la Culture, lorsque cet été vous êtes venue à Avignon sur la place du Palais en prenant un prospectus de musée que je vous donnais, vous m'avez répondu « si j'ai le temps, je viendrai ». Faites vite, parce que dans moins longtemps que vous ne le pensez, les lieux culturels, certains lieux culturels, mais un certain nombre, seront fermés définitivement.
Merci Colline. Merci. Alors si on avait des questions sur le poids économique de la culture, sur le milieu, sur l'économie générale, on a des chiffres qui viennent directement du gouvernement, ils datent de 2018. 47 milliards d'euros, la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles sur la part de la culture, donc sur l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire 2,3%, ce qui correspond à 7 fois plus que le PIB. Plus que l'industrie, pardon, pour le PIB, bien sûr. Ça vous va comme chiffre ?
Merci pour ce complément.
De rien. À bientôt.
À bientôt.
Vous n'êtes pas trop énervé quand même ?
Non, bon, je garde le sourire.
On respire, on reste zen.